Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Go!
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Bonjour Vincent, comment ça va?
Bonjour Fabrice, ça va très bien, merci. Et vous?
On est bien dans votre émission Santé Intégrative, ouais. Car on rappelle, c'est votre émission.
On est à la maison.
Mardi, hop, chaque mardi, 9h-10h. Je dis hop, parce qu'on a un petit kakemono derrière qui était sur le point de tomber. Faut qu'il tienne le coup. Hein. Vous avez une puissance. Vous avez juste la pensée.
C'est l'effet vibratoire.
Vous avez l'effet vibratoire. Sachez, pour toute notre audience, homme-femme, sachez que Vincent Renaud, il a l'effet vibratoire. Donc n'hésitez pas à le consulter parce que la vibration, ça fait partie de la vie.
Exactement, on a besoin de vibrer. On a besoin de vibrer. Moi,
vous
j'aime bien
vibrer. Vous nous faites vibrer. C'est ça la fréquence. Les fréquences, la radio, c'est magique.
Vibration, c'est le nom de ma brosse à dents d'ailleurs.
Bien. Alors, tiens, je viens d'avoir un petit message de quelqu'un qui nous dit: quand est-ce que Vincent Renaud peut me faire vibrer? Allez, on va enchaîner. La semaine dernière, on s'est dit qu'on allait parler de dyspepsie. Mais auparavant, c'est bien que ça devienne systématique, cette petite histoire. Deux choses. La première, remercier le partenaire, notre partenaire,
oui,
le laboratoire COPMED, laboratoire familial avec une aventure incroyable, tellement il a progressé, une qualité de produit, une passion pour la nature, donc on les remercie de nous permettre de vous proposer ces contenus. C'est grâce à ces partenaires qu'on peut d'ailleurs exister.
Partenaire du CINAMIEF aussi.
Je n'en doutais pas un instant, j'en ai jamais douté, je n'entendais pas moins, j'allais même dire. Donc le CINAMIEF qui est le syndicat français de la santé intégrative, en gros.
Médecine fonctionnelle, syndicat national de médecine intégrative, voilà. Et fonctionnelle, réservée aux médecins pour l'instant et pharmaciens et docteurs et doctorants. Pour l'instant, on peut pas évidemment faire adhérer tout le monde, mais le but c'est de faire la promotion
pour votre
promotion,
santé, mesdames,
pour messieurs, défendre les praticiens par rapport à cette pratique qui se développe
bon,
de plus
allez,
en plus. Allez, on y va.
Parti. Non, parce que d'abord, je voudrais vous faire réagir sur un extrait d'émission de Jean-Paul Curté. Non, je rigole. Le mec, il lâche pas l'affaire. Non. Allez, on va parler de dyspepsie aujourd'hui.
Et oui, on approche des fêtes là.
N'oubliez pas, si vous nous écoutez, de vous abonner aussi sur les podcasts, ce sera vraiment parfait, votre contribution. La semaine prochaine, vous nous parlerez des fêtes en détail avec votre menu. On a tous hâte de savoir ce que vous mangez. Mais surtout, dites-nous, c'est quoi déjà la dyspepsie? Vous pouvez nous le rappeler brièvement?
Ben, la dyspepsie, c'est cette sensation d'aigreur au niveau de l'estomac, une espèce de remontée le long de l'œsophage qui va vous donner une espèce de goût amer dans la bouche. Donc pas terrible. C'est souvent les lendemains de fête où on a un petit peu cette bouche pâteuse, l'estomac qui brûle. On a des petits des petites brûlures comme des espèces de petites aiguilles qui vous picotent et des états un peu nauséeux avec parfois un peu mal à la tête. Donc pour comprendre le mécanisme de la dyspepsie, il faut qu'on fasse un petit retour, un petit rappel sur les mécanismes de la digestion. Quand vous mangez, la première étape d'une alimentation et d'une digestion réussie, c'est la mastication, chère à notre ami Vincenzo Castronovo, qui ne cesse de répéter sur les antennes de Nutri Radio qu'il faut mastiquer. La mastication, c'est 30% de l'activité de la digestion, c'est donc très important. Et durant la mastication, vous allez sécréter des enzymes, des amylases, des enzymes salivaires, qui vont aussi aider à la dégradation des aliments. Et ensuite, le bol alimentaire va descendre le long de l'œsophage pour atterrir dans l'estomac. L'estomac, c'est une grosse poche, une poche très volumineuse qui peut contenir jusqu'à 1 litre, 1,5 litre d'aliments et de liquides, et qui va donc broyer, on va dire, le contenu alimentaire dans un bain d'acidité importante. Je rappelle que le pH gastrique, il est entre 0 et 2 durant la phase de digestion. En dehors de la digestion, dans les phases interprandiales, on a un pH aux alentours de 3-4. Donc je fais juste une petite aparté parce que souvent on a des patients qui consomment beaucoup trop de médicaments pour freiner cette acidité, ce qu'on appelle les IPP, inhibiteurs de pompe à protons. Ben, il faut savoir que juste un comprimé d'un inhibiteur de pompe à protons, ça remonte le pH gastrique à 7. Donc on comprend pourquoi ils sont aussi mal supportés, ces médicaments, parce que ça perturbe forcément la digestion. La digestion gastrique, qui dure entre 20 et 30 minutes, elle doit se faire dans un environnement acide. Alors ça paraît contradictoire quand on parle de dyspepsie ou de brûlure gastrique, on va se dire, premier réflexe, oui mais alors si l'estomac est trop acide, c'est pas très bon de garder cette acidité, donc ces IPP sont peut-être intéressants pour soulager l'acidité gastrique. Ben justement non. C'est paradoxal, l'acidité gastrique est indispensable si on veut pouvoir digérer correctement le bol alimentaire. Il faut quand même pH entre 0 et 2. Et si on a des brûlures gastriques et de la dyspepsie, c'est parce qu'on a un problème plus de mucus et de vidange gastrique. Après les 20 minutes de digestion gastrique, l'estomac va s'ouvrir. Vous avez une petite porte de sortie qui s'appelle le pylore. C'est un muscle qui va s'ouvrir et le bol alimentaire va se vidanger. On l'appelle la vidange gastrique. Donc la plupart des dyspepsies sont souvent en rapport avec une mauvaise vidange gastrique. Donc il reste un surnageant au fond de l'estomac, un peu comme un évier qui est un peu bouché. Et du coup, c'est ce surnageant qui va déclencher la dyspepsie. Donc la première cause d'une dyspepsie, c'est soit une hypochlorhydrie, soit une mauvaise vidange gastrique. Donc il va falloir travailler sur la vidange gastrique. Comment je peux tirer la chasse correctement et vidanger mon estomac après un bon repas ? Ben, en apprenant à mastiquer, mais ça on l'a déjà dit. Mais la deuxième étape, ça va être évidemment de travailler sur l'axe pancréato-biliaire et sur le milieu acide, c'est-à-dire le pH gastrique.
Bien, on va marquer une première pause et on se retrouve dans un tout petit instant sur Nutri Radio. Restez avec nous.
En plus de 30 ans, les laboratoires COPMED se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Docteur Vincent Renaud sur Nutri Radio, on parle de dyspepsie aujourd'hui. On a vu juste avant la pause de quoi il s'agissait. En gros, bon, ben voilà, quand ça remonte un peu, c'est un peu acide, ça vous fait pas du bien, des petites brûlures. Mais justement, vous parlez d'acidité et a priori, si on est dans un environnement acide, c'est mieux pour éviter ces
dyspepsies. Absolument. Souvent les gens confondent. On prend des compléments alimentaires, hein, ça s'appelle effectivement, alors certains connaissent le citrate de bétaïne qu'on prend quand on a évidemment un petit peu trop fait la fête, mais le problème c'est que prendre des citrates tout le temps c'est un petit peu dérangeant parce que c'est effervescent et pas toujours très bien toléré. Donc moi je prends ce qu'on appelle du chlorure de bétaïne ou du bétaïne HCl, la bétaïne on va dire va aider énormément à rééquilibrer le pH, et donc on va essayer de réacidifier le plus possible l'estomac quand on a de la dyspepsie. C'est paradoxal parce que la plupart des médecins dans le cabinet vont vous donner au contraire des antiacides, ce qu'on appelle les IPP, alors que ça va aller contre finalement le mécanisme physiologique de la digestion qui veut que le pH doit être acide pour pouvoir dissoudre et réduire les nutriments en micronutriments. Si on veut que le chyme, c'est-à-dire le liquide, qui va être, on va dire, la conséquence de la digestion gastrique puisse être ensuite évacué par la porte de sortie, donc par le pylore, il faut impérativement que le bol alimentaire soit malaxé. Donc on va dire que la digestion gastrique, elle est à la fois mécanique et acide. Hein, donc c'est une espèce, moi je donne souvent l'image à mes patients du tambour du lave-linge, vous savez Fabrice, quand ça tourne là, vroom, l'estomac c'est un peu pareil, vous allez avoir des péristaltismes au niveau de l'estomac qui vont broyer le bol alimentaire, tout ça dans un milieu très acide, et ensuite cette acidité va permettre de sécréter des enzymes, les pepsines et les lipases, qui sont des enzymes qui permettent de dégrader les protéines pour les pepsines, et les lipases dégradent les lipides alimentaire. Donc c'est pour ça que si vous augmentez le pH, vous le remontez à 7, vous ne sécrétez plus d'enzymes, donc les pepsines ne sont pas activées, les lipases ne sont pas activées, et le bol alimentaire il est mal broyé. Donc attention, les IPP, pourquoi pas quand on a effectivement fait un peu la fête le lendemain, mais pas pendant des semaines et des mois et des années, comme je le vois trop souvent. Moi, de temps en temps, je peux prendre des IPP parce que je prends un anti-inflammatoire pour une tendinite, pour une douleur ou un lumbago. Je vais prendre peut-être 10-15 jours, peut-être pas 10-15 jours, mais 5-6 jours d'anti-inflammatoire si j'ai vraiment une douleur au dos ou si mon genou me fait mal. Parce que on vieillit, hein, j'ai les rhumatismes. Comme disait Michel Delpech, hein, j'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Et oui. On vieillit. Et ben, je vais prendre peut-être 5-6 jours d'anti-inflammatoire. Oui, je vais prendre un peu d'IPP pour éviter que ça me fasse des trous dans l'estomac. Je rappelle que les IPP, quand ils sont sortis dans les années 2000, ils étaient exclusivement prescrits en cas d'ulcère gastrique. À l'époque, on avait d'autres produits qui étaient des antihistaminiques qui marchaient très bien. La ranitidine, je ne sais plus, la famotidine, qui étaient très intéressants et qui ne perturbaient pas justement cette régulation de l'acidité. Et en 2000, les IPP sont arrivés sur le marché. Et au départ, c'était exclusivement pour des durées courtes de moins de 10 jours pour des ulcères gastriques. Aujourd'hui, les gens prennent des IPP un peu comme des bonbons, c'est même en vente libre. Donc attention à ne pas consommer trop ces types de médicaments où vraiment, faut vraiment suivre les recommandations des médecins et ne pas en abuser. Toujours est-il que quand vous avez évidemment un bon pH bien acide au niveau de l'estomac, la digestion se fait mieux et surtout la vidange gastrique se fait mieux. C'est-à-dire que le bol alimentaire, une fois qu'il est bien broyé, que l'acidité est bien respectée, que les enzymes sont bien sécrétées, vous allez ouvrir votre pylore et comme un goutte à goutte, l'estomac va se vider et va passer dans le compartiment du dessous qui s'appelle le duodénum. Et dans ce duodénum, qui est la partie haute de l'intestin grêle, vous allez avoir deux glandes très importantes, d'un côté le pancréas et de l'autre côté la vésicule biliaire qui vont sécréter des substances qui vont permettre de continuer le travail. Après la digestion acide et mécanique de l'estomac, c'est une digestion exclusivement enzymatique grâce aux enzymes pancréatiques, grâce aux acides biliaires, la bile qui permet la digestion des graisses et des lipides et les enzymes pancréatiques qui vont permettre de découper comme des paires de ciseaux les polysaccharides, donc c'est les longues chaînes de sucre en monosaccharides, ou les polypeptides, les longues chaînes de protéines en monoamines ou en monopeptides. Et c'est grâce à l'acidité gastrique que la vidange se fera et que la sécrétion pancréato-biliaire pourra être correcte. Donc c'est très important d'améliorer cette vidange. Et pour les dyspepsies, je vais vous donner quelques plantes intéressantes qui permettent justement d'améliorer et l'acidité gastrique, la vidange, parce qu'il va falloir activer le pylore et empêcher les remontées, parce que en haut de l'estomac, vous avez une petite porte aussi qui s'appelle le sphincter inférieur de l'œsophage, qui est une espèce de petite ponte qui se contracte, qui se relâche, qui se contracte, qui se relâche, et qui empêche les remontées du bol alimentaire vers l'œsophage et donc vers la bouche, et qui déclenche ces fameuses dyspepsies, ces fameuses nausées. Donc pour ça, il va falloir utiliser des plantes qui resserrent le sphincter inférieur de l'œsophage. Alors c'est plus compliqué quand on a ce qu'on appelle une hernie hiatale. Donc là, c'est une petite anomalie anatomique qui existe, qui est très fréquente, hein. Je dirais que presque une personne sur quatre, voire peut-être une personne sur trois, si on faisait des fibroscopies, présente cette fameuse hernie hiatale. Et donc quand vous avez ce petit clapet du haut qui se ferme mal, et en bas quand vous avez ce sphincter du pylore qui se vidange pas bien, et ben vous avez toujours un trop-plein au niveau de l'estomac qui a tendance à refouler, et surtout en position allongée. Donc forcément, dès que vous vous allongez, là c'est un problème purement anatomique, et c'est un peu de la tuyauterie, c'est un peu de la plomberie. Et ben vous allez avoir ces remontées le long de l'œsophage qui vont vous brûler, qui vont vous donner un état nauséeux, qui vont vous donner effectivement un goût un peu amer dans la bouche. Donc le but, et on verra après juste la pub, c'est d'accélérer la vidange de l'estomac au niveau du pylore et de bloquer le sphincter inférieur de l'œsophage pour éviter que le trop-plein de l'estomac remonte dans l'œsophage et dans la tuyauterie supérieure.
On met pas de pub, on met de la musique pour ceux qui sont sur le live, vous inquiétez pas. On va danser,
Zouk.
Et on se retrouve zouké. Dans un tout petit. D'ailleurs, c'est vrai qu'on devrait mettre un peu plus de zouk sur cette radio. On se retrouve à l'instant pour la suite.
J'adore
à la fin
Kassav,
de cette émission.
Mon groupe préféré, c'est Kassav.
Bah, moi aussi. Allez savoir pourquoi.
Ah ben oui.
Allez savoir pourquoi. Bon, on se retrouve dans un instant. Vous allez nous donner les plantes qui vont.
Bah c'est mieux que la bourrée auvergnate. Hein.
Oh, c'est différent. Vous savez, on peut faire les deux. Hein. Allez,
ah oui. Zouk bourrée auvergnate.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Le docteur Vincent Renaud sur Nutri Radio, dernière partie de cette émission. On parle de dyspepsie aujourd'hui. Dans un instant, vous allez nous révéler les plantes qui vont nous faire du bien. Si vous venez d'arriver, comme dans un saloon, vous entrez, vous sortez, c'est vous qui choisissez. Et l'émission, elle sera dispo en podcast à partir de dimanche 18h. Donc comme ça, vous allez pouvoir écouter ça tranquillement en étant concentré. Vous êtes des milliers à le faire. D'ailleurs, j'insiste là-dessus. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner. Avant d'aborder les plantes, juste une question. Il y en a qui prennent du bicarbonate de soude, cuillère à café.
Oui, ça alcalinise.
Et ça, c'est alcool, mais ça alcalinise. Mais vous avez dit qu'il fallait plutôt que ça.
Il faudrait acidifier. Donc, je vais vous donner mon secret pour savoir si vous avez un estomac qui est suffisamment acide ou pas. Donc, la grande question, c'est effectivement comment fonctionne mon pH gastrique. Donc, il y a un test très simple à faire le matin à jeun, au réveil. Vous allez prendre un verre d'eau, cher Fabrice. Vous allez mettre un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude. Ça va faire pshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ce verre qui est effectivement enrichi en bicarbonate de soude, et vous allez chronométrer le temps que vous allez mettre pour éructer. Et oui, là, c'est un, effectivement, on a le droit de roter, parce que c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas très correct quand on est dans la rue. Quoique dans certaines religions, il paraît que ça se fait après un repas, quand on a bien mangé, il paraît que le fait d'éructer, c'est de montrer que voilà, j'ai
c'est
bien
comme
mangé.
Ça que j'ai rencontré ma femme.
Ah bon?
Non, je plaisante.
Mais vous chronométrez le temps que vous allez mettre pour éructer. Si vous mettez moins de 2 minutes, si vous rotez très tôt, après avoir bu ce verre de bicarbonate de soude, c'est que vous avez une acidité correcte. Puisqu'une substance évidemment alcaline avec un pH acide, ça crée effectivement... ça libère du gaz, et ce gaz, ben, il remonte, il y a la poche air gastrique, et ça vous fait roter. Si par contre vous ne rotez pas, ou alors vous rotez ou vous éructez au-delà de 2, voire 5 minutes, vous voyez, le fait d'en parler, ça me fait faire des remontées.
Allez-y, rotez, hein, sentez-vous libre.
Non,
je n'ai pas, hein, en fait.
Non, je voudrais pas choquer mon public, mais effectivement, physiologiquement, le fait de parler beaucoup comme ça à l'antenne, ça provoque des remontées, des poches à air, parce que j'ouvre la bouche régulièrement, mais je me contiens, je suis bien élevé, cher Fabrice, donc je ne vais pas choquer mon auditoire. Donc, tout simplement, quand vous avez pris ce bicarbonate de soude, au bout de 2, 3, 4 minutes, vous devez ressentir une espèce de gaz et de sensation d'éructation. Si vous n'éructez pas du tout, ou en tout cas, pas au-delà de 2 minutes, c'est que vous avez un problème d'acidité gastrique, c'est que votre pH n'est pas assez bas. Et donc, il faut effectivement, là, à ce moment-là, consommer ce fameux bétaïne HCl. Donc, c'est pas de l'acide chlorhydrique, hein. Je vous déconseille de boire un grand verre d'acide chlorhydrique, sinon, là, vous allez faire effectivement des trous dans l'estomac. Donc vous avez des substances très intéressantes qui permettent de moduler le pH, c'est la bétaïne. Alors certains utilisent le citrate de bétaïne, moi je préfère le chlorure de bétaïne. C'est évidemment commercialisé dans la plupart des laboratoires de compléments alimentaires, vous en trouvez un peu partout dans le commerce. Et il faut en prendre, alors la question c'est souvent, est-ce que je le prends avant ou après le repas pour acidifier mon estomac, pour aider à la digestion? Alors théoriquement, c'est plutôt en fin de repas. Une fois qu'on a fini notre repas, il faut prendre votre bétaïne HCl qui va permettre d'acidifier votre estomac et de favoriser la bonne digestion. Et les patients me disent c'est remarquable parce que du coup, mon estomac se vidange bien et j'ai plus le poids que j'avais habituellement sur l'estomac où j'avais toujours l'impression d'avoir évidemment du plomb dans l'estomac, de pas arriver à vidanger. J'ai toujours la sensation de cet estomac plein avec des remontées et un goût amer dans la bouche, ça va être déjà la première étape. Donc faites le test au bicarbonate pour vérifier si vous avez de l'acidité ou pas. À partir de là, on va utiliser des plantes en fonction des symptômes. Et là, il faut l'avis d'un médecin ou d'un expert en tout cas, parce que lui, il va analyser, il va examiner, il va palper, on va palper tout le creux épigastrique, toute cette zone-là. On va interroger le patient pour savoir si la brûlure, elle est plutôt en position allongée, plutôt en position debout, selon ce que... Voilà, il y a tout un examen clinique. Hein. Moi, la phytothérapie, quand je l'enseigne, il y a vraiment, je dirais, une science de la phytothérapie complète, et on se bourre pas de plantes comme ça sans avoir évidemment une bonne connaissance des mécanismes. Donc on va étudier deux types de plantes, les plantes carminatives et les plantes stomachiques, stoma comme estomac. On sait qu'il y a des plantes qui ont une activité, un tropisme spécifique sur les muscles gastriques qui vont permettre soit d'améliorer la vidange de l'estomac, le cumin par exemple, la gentiane sont des plantes intéressantes pour justement aider à cette vidange, la guimauve. La réglisse, elle est très à double tranchant, parce qu'on ne peut pas l'utiliser chez tout le monde. Elle peut générer des troubles au niveau de la tension artérielle, elle peut perturber aussi le potassium sanguin, la kaliémie comme on dit en médecine. Et donc, il faut la manier avec prudence. Hein. Donc la réglisse, ne vous bourrez pas de réglisse, parce que effectivement c'est une plante stomachique, ou stomachique, stomachique. Je ne sais jamais comment on le dit, en fait.
J'allais vous dire, vous êtes sûr que c'est stomachique,
mais... Stomachique, stomachique. Oui, ça s'écrit S-T-O-M-A-S-C-H-I.
Oui, ben bon, en français, il y a beaucoup d'exceptions.
Stomachique.
On dit écho ou écho
Un
écho ou un écho?
On dit chorizo ou chorizo? On dit cholestérol ou cholestérol?
Voilà, on dit cheval ou cheval?
Je ne sais pas. Bon, on va faire un cours de français. Tiens, prochaine émission, on change de sujet. Boum. Donc, les plans stomachiques. Bon, allez. Ou carminatives, qui vont permettre de réduire le volume gastrique. Le problème, c'est quand l'estomac est très gonflé, ça comprime au niveau de la cage thoracique, du diaphragme, et hop, c'est comme ça qu'on a des rots et des renvois et des remontées acides. Donc, on va utiliser des plantes, justement, qui vont permettre de décompresser cette poche d'air gastrique, d'améliorer la vidange. Si l'estomac se vide bien, forcément, il n'y a plus de trop-plein, et les remontées se feront moins bien. Il y aura moins de nausées et moins de dyspepsie, qui est le sujet, évidemment. Et je ne pars pas le fil de l'histoire, quand même. Hein.
Bravo.
Hein, voilà, on a l'impression, des fois, que je digresse, que je n'ai pas raconté mes vacances de cet hiver, par exemple. Qu'est-ce que vous faites, tiens, d'ailleurs?
Alors, Noël, justement, moi, je voulais passer, avant de parler de vacances cet hiver, je vais passer vacances de l'année dernière.
Non, on déconne. On rigole, pardon, excusez-moi. Pas
oui,
bon
attention.
Mot. Oui, excusez-moi, on rigole. Donc, je parle de la gentiane, du cumin. J'aime bien le gingembre, la menthe. Hein, c'est les plantes que j'utilise fréquemment, la guimauve, la camomille allemande, et la réglisse. Je veux dire, ces plantes-là, elles vont avoir des effets extraordinaires sur l'état des nausées. Alors, tout dépend de ce que vous avez. Je vais pas faire un cours de médecine aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut faire appel à un professionnel de santé, parce que selon vos symptômes, on va utiliser plus la réglisse et la guimauve, si c'est plutôt cette espèce de sensation de brûlure, si c'est... comme si on avait un espèce de coup de poignard au niveau de l'estomac. Alors, bien sûr, il faut quand même, si vous n'avez pas fait de fibroscopie, demander l'avis d'un médecin, voire d'un gastro-entérologue, avant de s'automédiquer, hein, et surtout avant de prendre de la phytothérapie. C'est pour ça que j'aime bien, effectivement, le côté un peu respect de la prescription médicale que prône Fabrice dans ses émissions. C'est Pollux, non? Comment il s'appelle?
Il est où, Pollux? Moi, c'est Pollux. Ah. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Merci, Pollux.
Voilà, merci, Pollux. Parce que si vous avez une brûlure gastrique et que derrière, vous avez, par exemple, un hélicobactère pylori, qui est une bactérie qui peut donner aussi ces symptômes de dyspepsie, et on peut traîner, finalement, et faire un retard de diagnostic, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que l'hélicobactère pylori, on le sait, et c'est une cause majeure d'ulcère gastrique ou de cancer de l'estomac.
Mais on l'a tous, hein. Il faut juste savoir s'il se réveille ou pas, c'est ça l'histoire?
Exactement, oui, voilà. Mais bravo, Fabrice, quelle culture.
J'écoute sur Sainte Santé Intégrative.
Ah, voilà, je me suis dit, tiens, si on faisait un truc sur l'hélicobactère pylori, ça a déjà été fait, c'est ça?
Non, mais on peut refaire. Non, mais en plus, ça n'a jamais été fait. Non,
ah ben, parce que ça, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai formulé il y a longtemps un produit là-dessus, et donc c'est un domaine que j'aime bien. Alors voilà, moi, tout ce qui touche la sphère digestive, de toute façon, c'est mon dada.
2025.
Pour 2025, on fera l'hélicobactère pylori. Donc voilà, c'est pour ça que si ces brûlures, ces dyspepsies, ces nausées persistent, il faut quand même demander l'avis d'un médecin pour savoir s'il faut faire une fibroscopie ou pas, une échographie pancréato-biliaire pour vérifier s'il n'y a pas des lithiases ou des calculs dans la vésicule, vérifier l'état du pancréas. Si vous avez fait trop la fête, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des pancréatites. C'est donc des inflammations du pancréas. Et ça aussi, ça nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux. Et là, on n'est plus juste dans les plantes à visée carminative. Il faut aller évidemment plus vers un traitement médical avec des enzymes pancréatiques. Alors, on peut utiliser des enzymes sous forme de compléments alimentaires. Donc là, moi, je vous ai parlé de la partie haute de l'estomac, les plantes carminatives, les plantes de l'estomac ou stomachiques, j'insiste.
Stomachiques, vous avez raison, j'ai vérifié entre-temps.
C'est ça, voilà. Donc, il faut penser que s'il y a un problème dans le carrefour pancréato-biliaire, enfin, je dirais gastro-pancréato-biliaire, voilà, plus précisément, puisque là, on a un carrefour où il y a trois éléments importants à prendre en considération. On va utiliser les plantes de l'estomac, dont j'ai déjà parlé. Et puis ensuite, de l'autre côté, est-ce que ça bouge pas? Est-ce que l'estomac se vidange pas bien parce que j'ai une mauvaise sécrétion pancréatique ou une mauvaise production de bile? Et dans ces cas-là, je vais rajouter dans mes dyspepsies des plantes à visée cholérétique et cholagogue, On parle de termes techniques, hein. Mais je sais qu'on a des auditeurs experts, hein, qui connaissent parfaitement bien tout ce langage un peu médical. Cholérétique, ça veut dire qu'il produit de la bile, et cholagogue, ça veut dire qu'il la relargue. Cholargol, ah oui, c'est moins lourd ce cholargol.
C'est moins mémotechnique.
C'est cholargol qui relargue. Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'on rigole ici. Moi, j'adore cette émission.
C'est terminé.
Merde. Alors, il y a plein de cholérétiques et cholagogues, on n'en parlera pas.
Mais si, allez-y, mais vite, mais on ne peut pas en parler. Ça mérite une émission ou pas?
Une émission, ouais, ça mérite une émission.
Et ben voilà, on en parle la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Dans un instant, c'est Angélique Houlbert. Merci, docteur.
Mais merci à vous, Fabrice. Merci aux auditeurs.
Et ben voilà, retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.